Bien, je vous propose que l'on commence le pré-conseil, le temps de pouvoir démarrer le conseil municipal. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais voir avec vous un petit peu, comme d'habitude, les actualités de la commune, les travaux qui sont réalisés depuis le dernier conseil municipal. Si vous voulez intervenir pour apporter des compléments, n'hésitez pas en tout cas. J'ai une idée, j'en ai encore une autre qui me revient. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours de réalisation en ce moment sur la commune. En premier, je pourrais citer par exemple le changement de l'éclairage public. On en a beaucoup parlé au cours de la moitié de la mandature. On avait fait une demande de fonds verts, donc de subvention de l'État. Et le fonds vert, c'est le fonds qui réduit de plus en plus, et donc on a réussi à le bloquer. Et donc on a délégué TE 83, donc l'ancien syndicat Similec, et donc l'éclairage est en train de se mettre en place un peu partout. Donc là, on change les lampes, on passe en basse consommation. Donc ça, c'est une action positive puisque ça nous permettra à la fois de moins consommer d'énergie lorsque l'éclairage public est allumé. Et en plus, il y a un aspect économique qui est notable. Et je rappelle que quand on a eu la hausse du coût de l'énergie, c'était environ 150 000 euros de hausse de coût, en tout cas pour le budget de la commune. Donc ça, c'est une action qui est quand même progressive, qui se fait donc... Évidemment, ils sont un peu perturbés puisqu'ils interviennent au moment où on a fait les éclairages de Noël. Donc, ils font tout l'extérieur. Et à partir de quand on aura levé les derniers éléments en janvier, après les périodes des fêtes, évidemment, ils termineront sur les lanternes de style. Est-ce qu'il y avait des... Du coup, il y aura un débat de réflexion, en tout cas, à porter sur la question de l'éclairage public, comment on va le gérer pour la suite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en plus, il y a une baisse de l'intensité à partir d'une certaine heure. Et donc, ça fait qu'on a une consommation beaucoup plus faible au moment où on est vraiment au creux de la nuit. On a le moins besoin, mais visuellement, ça se voit très peu. Ensuite, il y a les travaux de voirie. Vous savez, chaque année, on mobilise environ 150 000 euros par an pour refaire l'ensemble des voiries de la commune. Donc cette année, les schémas qui étaient retenus, c'était dans les quartiers le chemin des Vergers Ouest, avec une problématique de débordement du ruisseau. Le chemin était très abîmé, donc il a été refait. Et il y a la rue Marceau également, qui était prévue. Et là, il y avait un gros travail aussi, c'est pour ça qu'on avait reporté ce chantier-là, puisqu'il y avait les canalisations à reprendre jusqu'à l'intérieur des maisons. Donc il y avait un vrai sujet aussi sur des connecteurs qui étaient après compteurs en plomb. Et ça, c'est interdit. Mais là, on n'était pas dans la partie communale, mais quand même, on se devait quand même d'accompagner les propriétaires pour le faire. Et comme ça, ça a permis de sécuriser le réseau, de le rénover, et donc, du coup, maintenant, d'avoir la voirie. Alors, certains me disent, mais maintenant, il y a la place des pénitents, puisque finalement, quand vous passez par la rue Marceau, vous avez la rue Thiers qui a été refaite, il reste la place des pénitents, le chemin de la Roguière qui a été refait Saint-Marc, et il resterait la rue de la Paix. Et là, donc là, rappelez-vous qu'il y a un projet avec de construction de logements sociaux dédiés pour les militaires de la sécurité civile. Donc l'idée, c'est que la base de chantier pour construire les logements dans la petite maison, la maison et le jardin qui ont été rachetés, qui font l'angle droit, on a négocié de pouvoir avoir récupéré la pointe pour arrondir le virage, parce qu'on est dans une toute petite rue, mais qui reste quand même une rue principale de circulation du cœur du village. Et donc forcément, la base de vie de travail va se faire, des travaux, va se faire sur le parking des pénitents. Et c'est une fois que les travaux réalisés, qui devraient démarrer l'année prochaine, puisque le permis va être déposé prochainement, eh bien, on pourra terminer ce secteur-là en refaisant la place des pénitents et la rue de la Paix. Et ainsi, le secteur sera bouclé à ce niveau-là, avec la rue nationale qui avait été faite par l'ancienne municipalité. Sur la question du plan Barnier... Pareil, c'est une action qui nous a beaucoup mobilisés au cours de ce mandat. Nous avions lancé donc la période de démolition avec la visite de M. le préfet. On en avait parlé en dernier conseil. Et donc, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y a les trois premières maisons qui ont été démolies et la totalité des maisons qui ont été acquises. Donc, la totalité des 11 propriétaires ont été dédommagés et ont pu se reconstruire. Et on s'est même occupé pour certaines personnes à retrouver de logements. Et donc, je remercie les services préfectoraux qui nous ont accompagnés sur cette dimension-là. Et donc là, on est dans la phase du chantier démolition qui se fait progressivement, avec une particularité puisqu'il y a la reprise des matériaux. Tout ce qui est encore bon, eh bien, est réemployé en circuit court. Et le reste va être revalorisé. Donc là, il y a les Noria et il y a BFM qui est venu faire un reportage et qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs sur ce sujet-là de mobilisation face aux risques d'inondation. Ce qui m'amène à un autre gros chantier que tout le monde voit en ce moment. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Et ce matin, en agglomération, à l'agglomération, il y a un maire qui m'a dit, il me demandait si on arrivait à trouver les truffes, du coup. C'est le jardin de pluie, donc, qui se fait sur, c'est à peu près entre 8000 m² de bassin qui va être construit, va être creusé. Mais évidemment, l'ampleur pour le bassin, on occupe quasiment la totalité du champ, quasiment.
On nous a dit qu'on était en train de faire l'aéroport.
Voilà, c'est ça. Donc, je rassure tout le monde, donc c'est bien le jardin de pluie bassin de rétention qui est une solution double qui permet à la fois de récupérer les eaux, de les stocker provisoirement pour qu'elles s'infiltrent dans la nappe et réguler l'écoulement du ruisseau du Verdon. J'ai vu une remarque sur les réseaux sociaux où on nous expliquait que la Ribérotte se jetait dans l'Argent et pas dans le Verdon. Mais il faudra expliquer à nos amis résidents, nouveaux habitants, que nous avons notre Verdon qui est un petit ruisseau. Mais ce petit ruisseau peut nous poser de gros problèmes. Inondation au niveau de l'école qui est protégée aujourd'hui avec le bassin qu'on avait installé dans la cour et qui posait encore problème également au niveau de la crèche et de la rue Marceau qu'on vient de refaire, puisque là, il y avait l'inondation qui pouvait se mettre en place. Ça, c'est historique. Et si vous regardez les vieilles maisons, vous avez encore dans certaines remises des bâtards d'eau, donc comme quoi c'était un sujet. Sauf qu'à l'époque, il y a 50 ans, c'était que des remises. Aujourd'hui, l'habitat a évolué. Donc ce bassin-là va permettre de sécuriser. Et comme c'est 8000 m² dans le sud de la France, il vaut mieux l'optimiser. Et donc là, l'idée, c'était d'en faire un parc et donc qui permettra la déambulation et de profiter sur l'arrivée des nouvelles installations qui sont prévues dans le secteur, notamment la crèche et la salle des fêtes qui sont prévues dans notre PLU. Ensuite, je voulais vous parler également d'un autre gros chantier qui est en cours. Nous y sommes. C'est le chantier de la rénovation énergétique et thermique de la mairie. Alors c'est un gros chantier, c'est pas du luxe, on n'est pas là pour refaire les propretés. Donc là c'est vraiment l'objectif, c'est en premier, c'est d'isoler, changer le système de chauffage, changer le système, les huisseries également qui sont perméables aujourd'hui. Donc c'est reprendre tous ces éléments-là, c'est un très très gros chantier. On a délégué à TE83 au syndicat la maîtrise d'ouvrage pour accompagner, suivre le chantier et le réaliser. Et on a du coup taper du poing sur la table récemment, puisque normalement, nous sommes en théorie à la moitié du chantier. Or, le quart a été réalisé. Donc, le président de TE83, je l'ai interpellé. Il a eu la bonne idée, en tout cas, de nous accompagner. Le nouveau directeur de TE83 est venu en réunion. Et donc, nous avons tous les deux tapé du poing sur la table. Et j'ai même demandé à ce que les pénalités soient appliquées pour les entreprises. Et comme par hasard, ça bouge un peu plus vite. Donc dans les travaux visuellement que vous allez voir qui vont concerner un petit peu la rénovation de la mairie, c'est notamment les deux verrières qui sont de part et d'autre des bâtiments. Vous savez, ici nous sommes dans la mairie historique et puis après nous avons l'appartement des enseignants et enseignantes et entre il y avait du vide. Certains vous l'avez mieux connu que moi puisque vous avez été élève. Et lors de la rénovation dans les années 80 par monsieur Gauthier, lorsqu'il y a eu l'unification de l'ensemble de ces bâtiments, il y a eu la verrière qui a été posée. Aujourd'hui, la verrière pose problème. C'est l'été, c'est un aquarium, un four. Et l'hiver, forcément, on se gèle. Donc là, l'ensemble va être muré. Ça avait été validé en commission d'urbanisme. Le but, c'est juste d'atténuer en fait, cet aspect four ou réfrigérateur. Et donc, il y a des murs qui vont être posés et des fenêtres qui vont être apposées pour être mis à la place, pour être en cohérence d'un point de vue architectural. Et donc, l'entrée, le petit bocal à l'entrée, ce qu'on appelle le bocal, c'est le hall qui va être supprimé pour éviter de faire un effet four supplémentaire. Et donc, il y aura un petit hall qui sera couvert et donc l'entrée de la mairie qui se fera. Là où vous l'avez vu en bas, il y a une arche qui est en train de se monter petit à petit. Donc, c'est un gros chantier. Ça concerne également la médiathèque, le chauffage. Ça concerne les bureaux administratifs, l'urbanisme, l'événementiel, etc. Avec d'autres migrations de bureaux et on prépare un peu l'évolution des services publics pour la suite. Et l'ensemble de l'éclairage, donc soit on change de l'éclairage, soit c'est du relamping, on passe tout en basse consommation, donc en LED. Donc ça, on y est aussi. Pareil, c'est un chantier, et je vous rappelle, qui était estimé initialement à 300 000 euros. Si je compte l'erreur d'estimation, puisque le bureau d'études n'était pas si performant que ça, et ça, pareil, on l'a fait remonter à TE 83, plus la hausse des matériaux, on était arrivé à plus d'un million. On a revu les différents postes pour arriver autour de 700 000 euros. C'est bien ça, monsieur Leroux ? Hors taxe. Et on arrive au financement. Sur le plan de financement, on était basé sur 300 000. On a bien travaillé, j'ai tapé aux bonnes portes, monsieur le DGS et les services ont fait le bon travail de dépôt, puisqu'on arrive à un financement de subvention à plus de 70%, ce qui est quand même tout à fait correct. C'est l'objectif qu'on se donne pour les projets. Mais quand on part à 300 000, qu'on arrive à plus de 700 000, la marge était beaucoup plus importante à franchir, et donc on y a réussi. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La piscine, pareil aussi, on en a parlé. Donc, les travaux d'équipement des WC sont réalisés. Il ne reste plus que la dernière étape à franchir. C'est la cuve qui a été commandée pour la mise en incendie, puisque la borne incendie n'est pas suffisante dans ce secteur-là en termes de débit. Donc, tout est bon pour que dès janvier, le site soit aux normes. La peinture en train de sécher. Donc, on s'était engagé pour la mise en location pour 2026. Nous y sommes. Et nous aurons l'occasion d'aller visiter, à ce qui paraît, les locaux pour en profiter avant la période des fêtes. Le véhicule du CCFF, rappelez-vous, on a voté une demande de subvention auprès de la région. La région a voté cette subvention. Monsieur Fabre n'y croyait presque plus, mais comme quoi la magie Noël peut opérer. Et donc nous avons passé commande pour le véhicule du CCFF, donc de la réserve communale de sécurité civile, qui va venir compléter. Et il y a eu l'Assemblée générale donc des réserves communales de sécurité civile le week-end dernier. Et donc nous avons eu le plaisir avec Monsieur Fabre d'annoncer donc cette bonne nouvelle, qui à la fois est un outil supplémentaire pour la gestion de crise, et on sait qu'on en a besoin, et aussi un moyen de bien mobiliser, motiver les troupes, parce qu'on a besoin de bénévoles pour pouvoir aussi accompagner lorsqu'il y a des surveillances pour la partie incendie, mais aussi des moments sensibles lorsqu'il pleut beaucoup. Et il peut y avoir d'autres sujets. On a vu la Covid, on a vu les distributions d'eau lorsqu'il y a des contaminations de l'eau potable, etc. Donc c'est un bel outil.
Aider la population
quand il y en a besoin, exactement. Ensuite, on avait voté aussi l'acquisition de la remise au niveau rue de la Treille. Donc je suis allé chez le notaire, donc la remise a bien été acquise. Nous parlerons par la suite de sa valorisation. Ce qui me permet de rebondir, rappelez-vous, nous avions acheté également la remise dite Marigny dans le secteur des Moulins, à côté du lavoir. Et aujourd'hui, si vous y allez, vous avez le plaisir de voir qu'il y a un coutelier artisan qui travaille. C'est le coutelier qui était présent sur la commune, qui a une renommée assez importante, puisque c'est une année d'attente lorsqu'on commande un couteau. Et il est ravi, il a fait un super travail vraiment de revalorisation. Il travaille à l'ancienne avec des vieilles machines des années 40-50. Et donc ça, c'est quand même un plaisir de pouvoir le voir travailler et de pouvoir voir bien qu'on a installé un savonnier, on a installé un coutelier, puis on avance au fur et à mesure dans notre projet de redynamisation. J'ai également signé la convention avec l'établissement Puy Foncier, rappelez-vous. Cette convention, elle nous permet d'éviter d'acheter tout le village, justement. Elle nous permet d'avoir un portage lorsqu'il y a des ventes stratégiques qui se font, et on sait qu'elles se font. Jusqu'à présent, la commune s'est constituée comme un organisme de portage foncier, la maison Marigny, la maison Poisson. Aujourd'hui, on va pouvoir passer par l'EPF qui fera le portage sur plusieurs années, et ce qui permettra après de pouvoir travailler globalement et d'associer ce que nous avons déjà acheté dans la transformation en logement. Je pense que vous en entendez parler à l'échelle nationale. Il y a un manque de logement. Il y a une question de l'habitat qui est importante et il faudra qu'on soit au rendez-vous. Et en plus, si on veut être cohérent avec notre PLU et notamment sur la partie pyramide des âges, si on veut accompagner le mieux vieillir sur notre commune et en même temps attirer les jeunes générations, il y a besoin de cet habitat intermédiaire et que là, on peut trouver dans le centre ancien en termes de revalorisation. Il y a le Noël. En ce moment, nous sommes en pleine arrivée des périodes des festivités de Noël. Nous avons lancé, grâce à l'investissement de l'Office municipal des animations et la mobilisation de toutes les associations qui travaillent sur le Noël habituellement. Et donc, c'est trois week-ends de fête avec le thème Leval Village de Noël. Le week-end dernier était dédié aux enfants, était une très belle réussite. Et ce n'est que le début, ce n'est que la première année que l'on fait sous cette forme. Ce week-end, c'est le thème de la fête de l'Olivier. Donc, je vous invite, après ce conseil, à vite aller boire un verre chaud ou une bière de Noël, et il y a une soirée tartiflette pour profiter un petit peu du marché de Noël qui est présent dans le village. Et le week-end prochain, nous serons sur la thématique là, de la pastorale, le Noël provençal. Il y a eu aussi une réunion avec l'ONF. On nous a présenté le nouveau référent et avec des travaux aussi d'aménagement. Je viens de signer l'élément. Peut-être, Julien, si tu veux nous en dire deux mots.
Oui, alors vous savez que la forêt communale du Val est sous régime forestier, donc gérée par l'ONF. Et le technicien forestier territorial, TFT, dans le jargon ONF, vient tous les ans en fin d'année pour présenter des propositions de travaux. Ils sont obligés statutairement de présenter des travaux, libre à la commune après d'accepter ou non, ou de faire autre chose. Mais voilà, il y a cette obligation-là. En l'occurrence, là, c'est vraiment des travaux de signalisation. Il y a la délimitation d'une partie de la forêt communale ou un endroit où la limite n'est pas bien claire avec les riverains. Donc, un travail de marquage pour qu'on sache bien à partir de quel moment commence la forêt communale. Et puis, le travail sur les barrières de fermeture des pistes et les panneaux B0 qui doivent être repris. Donc voilà, sinon c'est un jeune qui connaît bien le village, qui est très ami avec la famille Autosserre, donc c'est quelqu'un local.
Merci. Et enfin, un dernier point, ce matin avait lieu donc le conseil d'agglomération et nous avons abordé un sujet sur la mise à jour des statuts de l'agglomération avec notamment la répartition des sièges par commune. Vous savez que nous avons voté contre. Il y a eu 3 communes qui ont voté contre. Et donc, il y a eu forcément un débat, le même débat que nous avons eu en conseil municipal. Et donc, évidemment, je n'ai pas voté cette délibération avec le maire de Brasse. Et nous avons eu ce débat où on n'était pas forcément d'accord sur le modèle. C'est la démocratie, évidemment, qui prime. On respecte la démocratie. En tout cas, j'ai voulu faire valoir qu'il y avait 3 modèles. Le premier modèle, c'est celui qui est proposé, où on a la ville-centre qui prend le maximum de sièges, puis après on répartit en dessous. L'autre modèle, c'était au prorata purement du nombre d'habitants, et donc là, il y avait Saint-Maximin Brignol qui avait le même nombre de sièges à maximum, puis on réduisait. Et enfin, il y avait l'autre modèle que moi je voulais défendre et qu'on avait échangé en conseil, c'est-à-dire que Leval n'a pas besoin d'avoir plus de sièges, mais que toutes les petites communes plus petites aient un siège supplémentaire. On trouvait ça que c'était aussi dans la symbolique aussi. Évidemment, ce n'était pas l'avis du président et d'une partie. Certainement, vous en entendrez parler dans la presse, puisque ça a beaucoup occupé nos débats. Et moi, j'ai défendu nos positions. Donc, si vous en êtes d'accord, il est l'heure. Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal de ce vendredi 12 décembre. Je vais procéder donc à l'appel. Monsieur Alain Alberti. Merci. Madame Colette Alexandre. Madame Sophie Argouache est absente. Monsieur Christian Bentoumi.
Présent.
Madame Laurence Barlemont a donné pouvoir à monsieur Julien Lassoc. Madame Anastasia Bringuy a donné pouvoir à monsieur Luc Pernet. Et madame Jeanne Cavallaro a donné pouvoir à monsieur Christian Bentoumi. Madame Gisèle Conforti-Pernet. Présent. Monsieur Steve Courdouin est absent. Monsieur Jean Culinati. Présent. Madame Géraldine Dudon. Présent. Madame Anaïs Dufeu a donné pouvoir à madame Géraldine Dudon. Monsieur Max Fabre.
Présent.
Monsieur Patrick Valentin a donné pouvoir à monsieur Michel Morel. Monsieur Norbert Giraud est absent. Madame Marie-Sylvie Grosvert est présente. Monsieur Franck Jamin a donné pouvoir à monsieur Jean Culinati. Madame Colette Lair a donné pouvoir à monsieur Max Fabre. Monsieur Julien Lassoc.
Présent.
Monsieur Christian Lefebvre.
Présent.
Monsieur Michel Morel.
Présent.
Monsieur Luc Pernet.
Présent.
Madame Corinne Rinaudot.
Présent.
Monsieur Georges Émonin, Monsieur Olivier Barral est absent et Madame Josiane Villain. Donc le quorum est atteint cette période de fin d'année. Donc qui souhaiterait être secrétaire de séance? Allez, Madame Gisèle Conforti-Pernet. Tout le monde est d'accord? Allez, c'est parfait. Donc nous attaquons donc ce conseil avec 24 délibérations. Première délibération, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 septembre 2025. Vous savez, ce procès-verbal, dans le souci de transparence, a une particularité puisqu'il y a eu un problème technique sur l'enregistrement. Et donc, Audrey du cabinet, vous avez écrit pour que vous puissiez chacun faire vos remarques en fonction de vos interventions. Je sais que Steve, qui était pas mal intervenu, a fait ses remarques également. Donc, tout a été intégré. Donc, c'est un compte-rendu qui est tout à fait conforme, mais qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, ils sont parfaitement exhaustifs puisque c'est l'enregistrement retranscrit. Là, vu le problème technique, donc il y a un double enregistrement en ce moment qui se fait, au cas où, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des remarques, en tout cas, sur la façon dont les débats ont été relatés? C'est exhaustif sur les questions dans la généralité, donc si vous êtes d'accord, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, nous allons passer à la délibération numéro 2 et je donne la parole à M. Luc Perny.
Alors, transfert et reprise de compétences micro. À TE83 Siemelec VAR. Vu la délibération.
Tu peux faire la synthèse.
Oui, vu les différentes délibérations actant la reprise de compétences optionnelles. Et donc, considérant que conformément à l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités adhérentes doivent entériner ces transferts et reprises de compétences.
Donc, c'est le LUC.
Et alors, il y a le LUC, Tanneron, Fort-Calquéré. Et c'est tout. C'est, voilà.
Ça, c'est l'avis du syndicat, en fait. On est obligé d'être consulté, comme à chaque fois.
Voilà.
Il n'y a pas de remarque particulière de ta part, Luc?
Non, non.
Non.
Donc, bon, ça va. Pas de remarque.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, M. Fabre, qui va nous parler du rapport d'activité 2024 du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats d'hiver, plus connu sous le nom de CIVAD.
Oui, comme chaque année, le CIVAD nous envoie le rapport d'activité d'une année avant. Autrement dit, ça, c'est le rapport d'activité 2024. Vous l'avez tous reçu. Il était joint avec la convocation. Donc, vous en avez tous pris connaissance. Et il nous est demandé de prendre acte de la présentation du rapport d'activité.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 4, eh bien on est dans la thématique. Donc là, c'est le rapport annuel d'activité de la communauté d'agglomération Provence Verte qui vous a été envoyé. La loi nous demande donc d'évoquer donc le rapport annuel d'activité qui porte notamment sur l'organisation du fonctionnement et des ressources pour un service public de qualité, des engagements pour une qualité de vie au quotidien, un aménagement équilibré et attractif du territoire et un territoire de référence en matière environnementale. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce rapport que vous avez reçu? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 5 qui concerne le renouvellement de la Convention territoriale globale Provence Verte. Donc ça, c'est la CTG. Que nous avions voté il y a un an ou deux, puisque c'est devenu obligatoire pour les communes de territorialiser la gestion de la petite enfance, même si on garde la compétence à l'échelon communal. Et donc, je donne la parole à Madame Géraldine Dudon.
Oui, donc je ne vais pas lire la convention en entier. Moi, j'ai juste un rectificatif à faire, je ne sais pas si je peux. Parce que moi, par rapport à ce que j'avais par rapport à Coralie, qui travaille sur la CTG, je n'ai pas 9 thématiques, j'en ai 8.
D'accord.
C'est laquelle? Donc, j'ai petite enfance et jeunesse, inclusion handicap, qui n'est pas spécifié sur...
D'accord.
Soutien à la parentalité, logement et cadre de vie, animation de la vie sociale, accès aux droits et inclusion numérique, santé et culture.
Pas de problème. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on le mette en phase. En fait, là, c'est le rapport de présentation globale. Donc, on va le corriger, si vous êtes d'accord, monsieur Leroux.
Parce qu'elle m'a fait la capture d'écran, ouais, sur les différents. Donc,
c'est pas gênant. Après, c'est la convention type qui est en annexe qu'on a. Donc, il n'y a pas de souci sur le...
Surtout que la précision, c'est... Je pensais que inclusion handicap, c'est...
Oui, c'est important de le rajouter.
Voilà, c'est pour ça.
Totalement. Je suis entièrement en phase avec
ta remarque. Et du coup... coup, ben voilà, elle est aujourd'hui renouvelée tous les 4 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2029. Justement, bon, voilà, comme on dit, elle a remplacé le contrat enfant-jeunesse parce que justement, elle a élargi son champ de compétences par rapport justement aux 8 thématiques qui sont énoncées. Et elle permet surtout, on va dire, une connaissance affinée des acteurs et des dispositifs, une meilleure lisibilité de l'offre existante de services aux familles, un maillage territorial équilibré des services aux familles également, et une coordination et coopération autour du projet du territoire. Voilà.
Très bien. Et en fait, c'est la CAF après qui finance l'opération.
Oui. D'ailleurs, quand la CTG a été élaborée, les communes, par l'intermédiaire de Coralie, de l'agent aux écoles, ont été invitées aux réunions avec la CAF pour élaborer la convention.
En fait, la CAF, ils veulent qu'on territorialise les actions, mm-hmm. ce qui peut être intéressant en termes d'un point de vue territorial. Mm-hmm. Moi, mon inquiétude, c'est toujours le transfert des compétences après qui arrive derrière. Une fois que c'est territorialisé, moi, là où je reste vigilant, c'est que ça ne parte pas à un échelon dont on a moins la main dessus. Parce que nous, les jeunes, ils sont au Val, et l'objectif, c'est qu'on puisse garder nos actions et nos forces de pouvoir d'agir, en tout cas, à cet échelon-là.
Mais après, donc du coup, à savoir que Coralie m'a fait le retour que par rapport à la CTG qui était donc là, qui se termine, et la nouvelle qu'on doit voter, il n'y a pas de changement significatif, c'est pareil.
Non, et puis on est une commune qui est assez dynamique dans la mise en œuvre de la CTG, tout à fait.
Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Délibération numéro 6, et je donne la parole à M. Fabre qui va nous parler du commissionnement des gardes particuliers sur la commune du Val. Délibération qu'on avait déjà, connaissait déjà, ouais. Il y a quelques années.
Nous avions pris par délibération le 19 juillet 2019 de contractualiser un partenariat avec la Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement pour commissionner des gardes particuliers afin d'exercer des missions de surveillance et de protection du domaine privé de la commune. Les gardes particuliers sont placés sous l'autorité du procureur de la République et ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le juge d'instance dont dépendent les biens dont ils ont la garde. Ce sont des agents de constatation. En cas d'infraction, ils ne jugent pas, mais dressent des rapports d'infraction ou de procès-verbaux. Récemment, la commune a été contactée par M. Stéphane Scatena, résident sur le Val, qui propose d'exercer bénévolement la fonction de garde particulier. Celui-ci a réalisé toutes les formations. Il a déposé une demande d'agrément de garde du domaine routier auprès de la préfecture du Var. Donc, M. le maire nous demande au conseil l'autorisation de commissionner M. Scatena en tant que garde du domaine public routier dès que celui-ci aura obtenu toutes les autorisations afférentes.
Monsieur le maire. Merci, monsieur Fabre, qui permettrait de rejoindre notre deuxième garde particulier et qui renforcerait de manière bénévole les 3 agents de police municipale que nous avons et le responsable de la police municipale qui est en formation, est en fin de formation puisqu'il va passer son oral la semaine prochaine. Et donc à partir de ce moment, là, nous aurons donc 3 policiers municipaux à temps plein sur la commune, plus les 2 gardes particuliers qui seront sur des temps évidemment pas les mêmes que les agents de la commune, mais qui pourront apporter notamment sur la question des bois, sur la question des voiries ou la question des gorguettes, par exemple, au niveau du jardin. Justement, c'est là où ils pourraient intervenir de manière plus précise. Donc voilà ce qu'il en est en tout cas. Donc ça permet de consolider l'approche de sécurité, et on a diversifié puisque nous avons des bénévoles également sur le point sécurité accès école. Pareil, là, nous allons lancer une campagne pour avoir d'autres bénévoles également pour diversifier et libérer la police municipale sur des missions qui concernent plutôt le cœur de la police municipale. Et sachez que moi, je suis pour qu'on renforce les pouvoirs de police municipale et notamment que l'on fasse plus confiance à nos policiers municipaux et qu'on arrête d'appeler la gendarmerie pour réaliser des actions que la police pourrait très bien faire. Mais ça, c'est le Beauvau des polices et c'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher puisque la société évolue et donc il faut que la police locale, la police du maire, puisse évoluer. Est-ce qu'il y a des questions sur les gardes particuliers ? Non ?
C'est clair.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, Gisèle, il faudra commander un cadeau de Noël de plus l'année prochaine, mais tu nous aideras un peu quand même. Tu viendras spécialement. Délibération numéro 7. Je suis perdu. Bon. Numéro 7, refacturation des frais de fourrière animale. Et c'est, je donne la parole à monsieur Max Fabre.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus de chiens qui sont laissés en liberté dans notre village. Ils sont transportés à la fourrière et le problème, c'est que c'est la commune qui paye tous les frais. Donc, cette délibération, elle est faite pour que les propriétaires de l'animal remboursent l'intégralité des frais avancés par la collectivité. Voilà. Donc il nous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à entreprendre toute démarche utile pour récupérer les sommes dépensées auprès du propriétaire de l'animal.
On les connaît.
Mais quand ils sont pucés, oui. Quand ils les récupèrent, ils viennent les récupérer.
Puces,
ils sont
en fourrière. Normalement, on les connaît souvent.
Oui, oui, oui. Mais les gens viennent les récupérer. Quand ils sont en fourrière, en général,
les
gens...
Ils vont les récupérer, mais il y a des frais.
Non, c'est en général, ils sont connus. Soit ils ont un collier où il y a le nom, soit ils sont pucés. La majorité des cas, on les a tatoués, c'est ça, tatoués. Ah oui, les... Non, justement, c'est une délibération et qui va nous permettre justement de pouvoir après...
récupérer les sous.
Bien. S'il n'y a pas d'autres questions ou interventions... Alors, la fourrière...
Ah,
alors,
c'est la SRL, Centre Animalier Régional. Je ne sais pas où...
Alors, si je peux me permettre de répondre à cette question, oui. Très rapidement, elle se trouve à Roquebaron. Parce que j'étais confrontée en étant d'astreinte cet été à un accident de la route sur la route de Carcès à 21h le soir. Dans cette voiture, il y avait un petit chien. Les gendarmes étaient des réservistes. Le chien, il ne savait pas quoi en faire. Donc, en tant qu'élu d'astreinte, ils m'ont appelée. Et je ne savais pas quoi faire du chien parce que je ne connaissais pas du tout la procédure. Heureusement que ce n'était pas un pitbull. Parce que j'ai un peu peur des chiens. C'est un petit bichon, il est adorable. Et merci Monsieur Michel Morel qui m'a dépanné, parce que moi avec mes chats c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est... Donc du coup, je me suis renseignée quand même. Donc il faut savoir que cette fourrière à Roquebaron, j'ai fait une fiche dans le journal d'astreinte que nous avons. Il suffit d'aller à Roquebaron avec le chien dans le coffre. Vous tapez un code, le portail s'ouvre. Bon, il vous voit arriver, mais les gardiens de la fourrière ne vont pas spécialement sortir. Vous avez plein de niches de disponibles, des formes différentes si c'est un chat ou un chien. Et donc, vous tapez le même code de l'entrée du portail sur la niche. Donc, j'ai testé, ça marche, hein, au cas où. Vous tapez le même numéro de code de l'entrée du portail sur cette niche. La niche s'ouvre, vous mettez l'animal, vous refermez. Donc, les personnes de la fourrière, à l'intérieur, je l'ai vu, il y a toujours une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes vide, forcément, qu'il n'y a pas de chien ou de chat, il n'y a pas besoin. Et après, ils nous voient et ils vont nourrir l'animal. Et après, ils se chargent de tout. Voilà.
En fait, tu n'as pas de contact avec...
Voilà, donc on peut arriver à 2h du matin, minuit, quand on veut. Voilà, bon, moi, voilà. Donc, ayant été confrontée à cette situation, je me suis dit, il faut que je sache où est la fourrière. Donc, elle est à Roquebaron. Ah ben c'est la fourrière de Roquebaron, donc je l'ai dans...
En fait, là, c'est au niveau des les week-ends, on a des astreintes pour une partie des adjoints, surtout. Et donc, on a une mallette d'adjoints, et donc tout est marqué dedans. Toutes les procédures, etc., sont marquées dedans. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez la procédure.
Oui, donc j'ai testé.
Très bien.
J'ai voulu me renseigner.
Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Délibération numéro 7, non, ça c'est fait. Numéro 8, admission en non-valeur, mais c'était ton histoire de code, ça m'a perturbé. Donc, admission en non-valeur de recettes irrécouvrables, je donne la parole à monsieur Alain Alberti. Vous la connaissez, celle-là de délibération, il y en a chaque année.
Merci monsieur Béraud, c'est une délibération de fin d'année, il y en a d'ailleurs d'autres, il y en aura d'autres. Délibération de fin d'année où c'est le trésorier principal qui nous demande d'admettre en non-valeur certaines sommes dues par des usagers à la collectivité. Voilà. Donc, le trésorier est en charge de récupérer, de recouvrer ces créances-là. Il n'a pas réussi à le faire. Donc, je synthétise, hein, une demande de procéder à ces recouvrements-là. Et vous avez ici, vous, la nature des créances, cantine d'enfants, crèche, garderie, centre aéré. Voilà. Ce qui est classique.
Oui, mais ce qui est déplorable quand même, parce que c'est des petites recettes, ok, mais
oui,
le principe est quand même
tout
pas
à
correct.
Donc, il y en a pour 19,50 euros, 58,50 euros et 75,18 euros. Voilà. Sachant que, voilà, il est précisé dans la délibération que le trésorier peut de nouveau continuer à essayer de recouvrer ces créances-là, mais bon, je crois que d'une année sur l'autre, quand on les passe en non, on les admet en non-valeur, c'est fini. Terminé.
Par contre, ce que moi je vous propose que l'on fasse, c'est que là, on a ces trois actions-là, on peut savoir, on sait qui c'est.
Voilà, oui.
Si vous en êtes d'accord, moi je vais me renseigner au niveau de nos services, puisque à part la crèche, mais quand c'est la garderie du centre aéré, la cantine enfant, c'est du municipal, qu'on puisse avoir le nom de ces familles-là, pour savoir s'ils sont encore des usagers cette année, parce que parfois c'est des personnes qui, lorsque les enfants sont au collège, donc on ne les voit plus, et donc ça ne marche plus, parce que sinon, derrière, il y a une autre procédure où on refuse après de les garder, donc si vous en êtes d'accord, qu'on continue à faire comme on fait chaque année, avoir le nom des personnes et puis qu'on puisse voir ce qu'il en est.
Ça me paraît légitime.
Minimum.
Surtout une cantine à 1 euro.
Oui, donc je me permets simplement de rajouter, si vous remarquez sur la délibération, ça date quand même de 2024, nous sommes fin 2025, donc ce n'est pas faute, nous, au niveau des services du CCAS, d'avoir recontacté les familles, bon, parce que nous avons beaucoup d'impayés, mais les gens oublient beaucoup, viennent nous régler. Mais là, après, ça part au trésor public. Ils font des recherches, mais comme dit Monsieur le maire, bien souvent, les gamins sont partis, sont au collège, donc les parents n'ont plus rien à faire. Voilà. Donc ce serait peut-être bien, oui, un petit rappel à l'ordre quand même.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de petite. C'est pour le principe.
Fait,
voilà, c'est
tout à fait. Oui, parce donc. Que bien souvent, ce ne sont pas forcément des familles dans la nécessité.
Non, c'est la négligence.
Voilà. Tout à fait. Donc c'est important.
Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Délibération numéro 9 pour Monsieur Alberti. Ouverture anticipée des crédits d'investissement 2026 dans la limite du quart du crédit.
Merci Monsieur Lebert. Alors ça c'est aussi une délibération de fin d'année. Hein.
Une tradition.
Une tradition, hein, voilà. On ne change pas. Une équipe qui gagne, là c'est celle-ci. Donc ça touche à la fois le fonctionnement et l'investissement. Alors pour ce qui est du fond, je synthétise si vous avez la délibération. Pour ce qui est du fonctionnement, on nous autorise les dépenses pour la continuité de service à hauteur des dépenses de fonctionnement 2026. Et pour ce qui est des investissements, là, on nous autorise à mandater à hauteur du quart des investissements de l'année 2024. Voilà, donc 25. Donc le quart. Sachant que pour ce qui est de les dépenses afférentes au remboursement de la dette en capital, celle-ci, elle est venant à échéance, celle-ci, avant le vote du budget, celle-ci, on doit la faire automatiquement. Hein, voilà. Voilà. Donc, à la fois, dépenses de fonctionnement dans les limites des dépenses de l'année en cours, 2025 pour 2026, et pour ce qui est de l'investissement, le quart des sommes dépensées au titre de l'année 2025. Ce qui nous donne comme montant, comme nous avions une dépense d'équipement qui s'élevait à 2 620 921,41 €, le quart de cette somme-là fait 655 230,35 €. Voilà, monsieur le maire.
Je remercie monsieur Alberti. Est-ce qu'il y a des questions ?
Juste pour conforter ce que
monsieur
dit
Lefebvre.
C'est vrai qu'on vote le budget, c'est au mois d'avril, hein, c'est ça ? Donc il faut bien que les dépenses puissent être réalisées entre janvier et avril.
Bien sûr.
Sinon, on ferait comme nos députés, on ne pourra rien dépenser. Bah,
nous, on n'a pas besoin de loi spéciale. Donc. Par contre, pour le bon fonctionnement du conseil municipal, ce qui sera proposé, c'est que l'année prochaine, avant le rendez-vous électoral, les élections, il y aura le débat d'orientation budgétaire qui se déroulera, parce qu'il est important qu'on puisse orienter le budget. Il n'y aura pas de vote du budget par cette équipe de mandature. Ça sera la nouvelle mandature qui votera le budget, puisque ça sera la nouvelle équipe de prendre en main la suite. Mais nous, on travaillera sur l'orientation qu'on veut laisser pour la future équipe. Voilà. Bien, délibération. Il faut voter. Donc, c'est bon. Qui est contre ? qui s'abstient à l'unanimité. Délibération numéro 10. Monsieur Bentoumi, Christian va nous parler de la mise à jour de la demande de subvention pour la restauration du cabanon communal des Grandes Aires.
Par délibération numéro 2025-072, le conseil municipal a autorisé la restauration du cabanon communal agricole des Grandes Aires, situé sur la parcelle numéro B571, à condition que le projet soit retenu par la région Sud au titre du plan concerté de valorisation du patrimoine dont bénéficient les communes du syndicat mixte de la province Verte-Verdon. Une subvention à hauteur de 40% des dépenses sera ainsi obtenue. Dans le souci de réaliser une restauration plus complète, incluant d'une part le décroutage et le rejointement des murs intérieurs du cabanon, et d'autre part la restauration du puits, M. le maire propose de confier l'ensemble des travaux à l'atelier Sancelot, taille de pierre et restauration du patrimoine, dont le devis est annexé à la délibération. Le coût total des travaux s'élève à 15 530,60 € hors taxes. La région Sud, sous réserve d'acceptation, subventionne le projet pour un montant de 6 212,24 € hors taxes. Reste à la charge de la commune du Val, en autofinancement, la somme de 9 318,36 € hors taxes. Monsieur le maire, soumet à votre approbation.
Alors, merci. Donc, évidemment, si on trouve une autre subvention, on la demandera. Hein. C'est comme ça qu'on construit au fur et à mesure au fil de l'eau. Mais là, c'était important de pouvoir actualiser, puisque le projet, comme il allait se réaliser, ce n'était pas en respectant les matériaux patrimoniaux. Donc là, le but, c'était quand même de le mettre à jour. Et la région est tout à fait d'accord pour nous accompagner dans ce projet, de ce qu'ils nous ont dit.
Et puis, c'était avant qu'il s'effondre. Et puis, ça faisait une verrue quand même à côté de l'école.
Et puis c'est un projet patrimonial aussi pour les écoles. Est-ce qu'il y a des questions? On l'a déjà voté, c'est juste une mise à jour. Et l'atelier qui va intervenir, c'est l'artisan qui avait fait des démonstrations lors du printemps de l'artisanat au pied de l'église. Il était présent. Donc il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Monsieur Bentoumi, vous pouvez prendre la truelle, on va y aller.
Oui, on va.
Demande de subvention au conseil départemental pour la rénovation de l'appentis des services techniques de la commune du Val. Donc l'objectif, c'est de consolider au niveau des services municipaux, des services techniques dans le bâtiment dit les tanneries. Il y a des parties qui sont vétustes et peu adaptées à l'usage qui en est fait. Le bâtiment des tanneries ne permet pas en outre de stocker le matériel technique et les véhicules à l'abri des intempéries. Donc c'est des toitures, vous savez que tout au long de la mandature, on a refait les toitures au fur et à mesure. Eh bien, on arrive maintenant au bâtiment des tanneries. En 2025, la collectivité a déjà entrepris de rénover la toiture du hangar pour mettre celui-ci hors d'eau, suite à de nombreuses infiltrations dans les espaces de stockage du matériel. Cette opération s'est faite à 100% en autofinancement communal. Et donc pour poursuivre le travail entrepris, il convient maintenant de reconstruire et d'agrandir un ancien appentis, aujourd'hui écroulé à l'arrière du bâtiment pour mettre à l'abri le gros matériel et les véhicules qui ne peuvent être stockés dans le hangar. La superficie de ce futur appentis est d'environ 160 mètres carrés. Donc le projet consiste à démolir l'ancien appentis et d'évacuer les déchets, de reprendre les fondations et terrassements pour l'extension, la pose de poteaux, linteaux et chaînages, la pose des poutres, la pose des plaques PST plus tuilage et enfin le passage des enduits sur les parties maçonnées. On a un devis qui s'élève à 59 975,12 € TVA non applicable. Et donc, il est proposé de demander une subvention au département pour une aide de 40 000 €, soit 67 € du coût de l'opération.
Merci, monsieur le maire.
Juste entre nous, en fait, le département m'a appelé pour me dire on a encore des sous si ça vous a... Donc, monsieur Fabre, est-ce que vous voulez rajouter des éléments sur ce sujet?
Non, c'est très bien fait.
Bien, je vous remercie de votre collaboration. Eh bien, nous allons passer au vote s'il n'y a pas de questions ou de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à monsieur Lefebvre pour une délibération. On en a beaucoup parlé. On y est arrivé. C'est le plan façade commercial.
Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre du projet Leval-Esprit-Village, déclinaison locale du programme national Village d'Avenir, qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer l'attractivité du territoire, la commune du Val souhaite aider les commerçants à améliorer, j'imagine, c'est les enseignes commerciales, parce que là, il y a marqué les commerciales, c'est les enseignes commerciales du centre-village. L'aide à l'amélioration et à l'homogénéisation des façades commerciales en centre-village concourt à améliorer le cadre de vie du centre-village et son attractivité, en misant sur le niveau qualitatif des devantures. Ce dispositif permet de mettre en valeur le patrimoine du centre-village et s'inscrit en cohérence avec le règlement local de publicité. Les objectifs poursuivis sont multiples. Harmonisation des devantures, valorisation des locaux vacants ou à fort potentiel, mise en œuvre d'aide à l'installation, renforcement de l'activité commerciale du centre-village et lisibilité des commerces, favorisation de l'installation et de la pérennisation de commerces de proximité et de services du quotidien, renforcement de l'identité territoire du Val, participation à la mise en valeur du patrimoine valois, amélioration de la cohérence du parcours marchand, confortement de l'attractivité commerciale du centre-village. Ce dispositif restera contingenté par l'enveloppe annuelle dédiée au plan et votée lors du budget primitif principal de la commune. Le règlement joint en annexe détaille tous les éléments de ce plan et les conditions d'accès aux subventions. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter le principe de la mise en place d'une aide incitative pour les commerçants dénommés plan façade commerciale du Val et de valider le règlement.
Et donc, dans le règlement, juste pour être le plus transparent de ce qui est proposé, dans les montants, parce que ça avait fait l'objet d'un débat, et ça doit faire l'objet d'un débat, s'il doit y avoir lieu, c'est maintenant. Donc c'est de se caler sur le plan façade des habitations, donc un plafond de 1 000 euros, comme on l'a déjà sur le plan façade hors taxe. Et si la devanture est plus petite et que ça coûte moins de 1 000 euros, c'est d'aller à 50%. Donc en gros, si vous avez une devanture à 800 euros, la commune contribue à 400 euros hors taxe et le commerçant contribuera à 400 euros. Et si on dépasse les 1 000 euros, donc là c'est sur des devantures plus importantes, eh bien on sera à un plafond à 1 000 euros, ce qui est quand même pas rien. Hein, ils sont mieux dans la poche de celui qui porte le projet que ailleurs. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir accompagner ces projets, parce qu'on a de plus en plus de demandes, on a lancé la dynamique, et donc il faut pouvoir aujourd'hui l'accompagner dans un cadre. Et évidemment, le règlement, une fois qu'on a voté cette délibération, on peut faire évoluer le règlement, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ?
C'est bien 1 000 euros maximum.
C'est le plafond, c'est 1 000 euros maximum.
Plafonné à 50% des travaux.
C'est ça. Si, c'est moins de 1 000 euros. Ça fait que, sur les petits, ça, moins de 1 000 euros, ça fait vraiment des petits projets, quoi. C'est des petites devantures.
Si il fait 1 200 euros, il n'y aura que 200 euros à verser. Ça ne sera pas équilibré.
Ah bah.
C'est cumulatif. Oui. Oui, pardon. Oui, c'est cumulatif. Oui, c'est ça.
Très bien.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. On va pouvoir continuer à travailler. Et on parlera dans l'orientation du budget, justement, le montant annuel qu'on mettra pour le prochain exercice sur les façades. Ça, c'est aussi un sujet. L'objectif étant, pour moi, on a une liste déjà de commerçants qui ont déjà demandé. Et c'est dans les prochaines années de pouvoir les accompagner assez rapidement, puisque on voit l'opération qui s'est réalisée jusqu'à présent, ça commence à créer un cadre. Et en l'espace de 2 ans, je pense qu'on peut arriver à vite transformer l'exercice pour les commerçants qui sont en attente de ce dispositif.
Et puis il y a une harmonisation au niveau architectural.
Tout à fait.
C'est pas notre.
On sent que c'est le délégué à l'urbanisme qui parle. Et c'est important, bien sûr. Bien. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? On remercie. Délibération numéro 13. Et donc, toujours Monsieur Lefebvre qui va nous parler de la dénomination des voies.
Alors, dans le tableau, il y a marqué Monsieur Lassoc et dans le truc, il y a marqué Monsieur Lefebvre. Comment on fait? Ouais, c'est pas grave.
Ah, alors, c'était qui? C'est Monsieur Lassoc ou Monsieur Lefebvre?
Peu importe. Non, peu importe. Oui.
Est-ce que vous êtes mis d'accord pour celui qui veut la porter?
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, dénomination des voix. Monsieur le maire informe les membres présents qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits de la commune. Il convient, pour faciliter la fourniture de services publics tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d'identifier clairement les adresses des immeubles. La dénomination des voies communales et privées ouvertes à la circulation est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Or, sur la commune comme ailleurs, de nombreuses voies, essentiellement privées, mais ouvertes à la circulation, se sont vues attribuer une dénomination par les riverains à des fins de confort, sans que ce nom ne soit officialisé par une délibération ni transmis au cadastre. Vu l'article, ça vous avez donc toutes les références des articles, considérant l'intérêt communal que présente la dénomination des voies, considérant qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux voies et lieux-dits de la commune, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Considérant que la dénomination des voies est laissée au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même, considérant que le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article du Code général des collectivités territoriales, au terme duquel, dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. Voilà, donc on vous demande... Alors, on va lire, excusez-moi. Tout ça pour vous dire que on vous demande de nommer le chemin des Treigerailles, qui est le chemin qui mène à la... Comment ça s'appelle ? À la pépinière, merci. Donc ça a été une demande par le gérant. Parce qu'à l'origine, il a mis le siège social de sa société chez son oncle. Et la maison a été vendue. Il m'a dit, moi, je ne vais pas mettre le siège social sur la route de Vins pour qu'après, à terme, je le mette à l'endroit où je suis. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu fait ça dans l'urgence. Voilà.
Oui, c'est pour qu'il puisse après avoir dans ses papiers d'entreprise.
Au niveau des statuts, il faut qu'il change le lieu.
Ce sera directement à pépinière, ce qui est cohérent avec l'activité.
Ce qui est plus logique, voilà. Oui, hein. Voilà, donc j'en ai terminé, il faut passer au vote.
Puisqu'on est dans la thématique des noms de voiries, donc on en a voté plusieurs, et si vous allez sur la route de Brasse, vous voyez des poteaux qui sont en train d'apparaître.
Fleurir.
Donc ils ne poussent pas tout seuls, hein. Ils ont été posés, et donc il va y avoir après les panneaux qui vont être installés. Donc, et sur la route de Vins également aussi, je ne les ai pas vus encore. Et je suis passé récemment sur la route de Brasse, c'est pour ça. Donc c'est en train, voilà, on est en train de déployer petit à petit ce qu'on a voté, voilà. Et route de Carcès également. Donc pareil, il y avait un sujet, donc rappelez-vous, on en avait débattu sur le coût. Hein, il y a des normes qui sont ou des lois qui nous imposent des actions, mais il n'y a pas le plan de financement derrière. Là, il y a une bonne possibilité parce qu'il faut gérer à la fois l'activité de nos services techniques, les éléments aussi à mettre en place. Donc là, c'est une entreprise qui le fait, le coût est tout à fait raisonnable par poteau, donc ça nous permet de nous mettre en conformité avec la loi et de ne pas avoir des surcoûts aussi importants que ce qu'on pouvait penser. Donc, mais ça pèse quand même sur les finances communales. Hein.
Je crois de mémoire, Julien me contredit-moi si je dis des bêtises, mais il y avait 180 chemins nommés.
C'est ça, il y a 180 chemins, ouais. Voilà. C'est quand même assez important.
Sachant que dès l'instant où il y a deux habitations dans un chemin, il faut y mettre un nom.
Ce qui ne fait plaisir à personne, puisque chaque habitant qui est concerné, forcément, il doit changer d'adresse. Et là où c'est mal fait, on en avait parlé, c'est si vous avez une entreprise, il faut changer votre numéro d'enregistrement, votre SIRET, et vous devez payer. Bien. Est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de questions sur le chemin des traits du rail, qui est tout à fait cohérent avec l'activité et le lieu, eh bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Délibération numéro 14. Et nous allons donner la parole à monsieur Christian Lefebvre encore, qui va nous parler cette fois-ci de l'acquisition de l'ER 48 Chemin des Vignes, une histoire vieille de plus de 20 ans.
Voilà, et qui n'est encore pas terminé, puisqu'il y a encore d'autres parcelles. Ce chemin, la particularité de ce chemin, c'est qu'il y a une partie communale et une partie privée. Donc, on a mis un emplacement réservé. Donc, les gens sont en droit de demander à ce que la commune achète cet emplacement réservé. Donc, monsieur le maire informe l'Assemblée que la commune a la possibilité d'acquérir un morceau de terrain situé chemin des Vignes, correspondant à l'emplacement réservé ER numéro 48 du PLU. Il s'agit de la parcelle C2398 d'une contenance de 156 mètres carrés, issue de la division parcellaire de la parcelle d'origine C2138, conformément au plan de cession figurant en annexe. Le prix négocié pour cette acquisition s'élève à 10 euros le mètre carré, soit 1560 euros, cette acquisition n'étant pas soumise à évaluation des domaines. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition.
On avait repéré lors de la révision du PLU l'ensemble des chemins qui étaient à vocation plutôt publique, mais qui passaient sur des propriétés privées. Et donc, il fallait qu'on puisse se régulariser, puisqu'on s'en était aperçu de ce sujet-là pour l'entretien des chemins où les habitants nous demandaient d'intervenir pour entretenir le chemin. Et quand on regardait dans nos bases de données, ce chemin n'était pas dans le giron communal. Donc, on n'a pas à intervenir chez le privé. Sauf que l'usage fait que tout le monde passe par ce chemin-là. Il est ouvert à la circulation, il dessert plusieurs maisons, il permet d'éviter de faire des boîtes de bouclage aussi, d'ouvrir vers d'autres secteurs. Il est raccordé à la départementale. Donc, on avait regardé un peu tous ces chemins-là et donc on avait acté qu'il fallait qu'on puisse les rendre dans le giron communal. Et en cherchant les archives, on a trouvé des correspondances qui datent de M. le maire Alfred Gauthier, où il y avait déjà à l'époque ce projet d'acquisition, mais qui n'a jamais abouti. Donc c'est pour ça que je disais un vieux sujet, et on n'a pas fini, c'est qu'une partie. Et au fur et à mesure, on vient que les opportunités se présenteront, nous achèterons pour pouvoir, officialiser la vocation commune de ce chemin. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 15, et cette fois-ci, c'est encore Monsieur Lefebvre.
C'est ma faute.
qui va nous parler cette fois-ci du projet de cession de la parcelle D1949 appartenant au domaine privé de la commune.
Donc, c'est l'inverse. Pardon.
C'est l'inverse du coup. Là.
Oui, là, c'est l'inverse. Donc, on vend une parcelle. Donc, par courrier en date du 1er mars 2025 adressé à Monsieur le maire, Monsieur Vaquez-Quentin a fait part de sa volonté d'acquérir la parcelle D1949 appartenant au domaine privé de la commune et constituant le chemin d'accès à sa propriété, chemin de la Mueille. Les propriétaires des parcelles contiguës, alors ça c'est sous conseil de M. Deluca, qui a demandé, c'est notre conseiller juridique, on va dire en quelque sorte, qui nous rédige les actes, il dit qu'il faut impérativement demander aux gens, aux voisins, si éventuellement ils sont intéressés. Bon, un des deux voisins, c'était ses parents, donc il n'y a pas eu de souci, et l'autre personne non plus. Ils ont répondu tous les deux par courrier qu'ils n'étaient pas intéressés par l'acquisition de ce chemin. La parcelle D1949 d'une contenance de 171 mètres carrés pourrait être cédée au prix de 10 euros. Alors, on vend et on achète à 10 euros, soit 1710 euros. M. Vaquez ayant accepté ces conditions, cette cession n'est pas soumise à l'évaluation des domaines.
Si on fait le calcul, on fait une opération positive, puisque voilà. On vend pour... En somme, plus que ce qu'on va acheter. Donc oui, c'est juste un bout de chemin qui finit en impasse dans la propriété. Et donc, il est dans notre giron en tant que propriété, mais il ne dessert que cette propriété. Donc,
il n'est pas entretenu.
Il n'est pas entretenu, on n'a aucun intérêt, en tout cas collectif, à le conserver, dans la mesure où il n'apporte rien pour la collectivité et que ça fait plaisir au propriétaire qui devra l'entretenir, et bien qu'on puisse lui rendre service. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, donc nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Délibération numéro 16. Cette fois-ci, ça sera Monsieur Anne Alberti qui va nous parler de l'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion du Var, convention 2026-2028.
Merci Monsieur le maire. Alors, les collectivités doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant au service de santé, au travail inter-entreprise ou assimilé, ou à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Jusqu'à présent, la collectivité a adhéré à l'AIST de 83, qui est devenue Audalia, qui a changé de nom. Mais leurs prestations ne nous donnent pas entière satisfaction, car cet organisme a vocation plutôt à s'occuper de structures privées et maîtrise moins les particularités des collectivités locales. Le centre de gestion 83 a créé un service de médecine préventive au titre de ses missions facultatives. Ce service est mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Aussi, le CDG 83 propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics du Var qui en font la demande d'adhérer par convention à son service de médecine préventive. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de résilier la convention actuelle annuelle avec Audalia et d'adhérer au service de la médecine préventive du centre de gestion du Var 83.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on les vote dans toutes les collectivités et syndicats en ce moment, c'est la période. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc je vous redonne la parole, monsieur Alain Berti, qui va nous parler cette fois-ci de la création de 5 emplois et la mise à jour du tableau des effectifs.
Alors, merci monsieur le maire. Cette délibération 17 va avec celle qui va suivre, la 18, hein, parce qu'il y a création et suppression. Donc, création de 5 emplois, on le voit d'ailleurs, il y a une mise à jour du tableau des effectifs qui doit se faire chaque fois, qu'il y a une modification. Ça touche des avancements de grade ou autre de nos collaborateurs. Donc, cette convention 17, délibération 17 propose la création de 5 emplois et mise à jour du tableau des effectifs. Et vous avez d'ailleurs l'ensemble des postes concernés, un poste de technicien principal, deuxième classe, à temps complet, au service informatique, un poste d'adjoint administratif principal, deuxième classe, à temps complet, au service ressources humaines, un poste d'adjoint administratif principal, première classe, à temps complet, au service urbanisme, un poste d'adjoint technique principal, première classe, à temps complet, au service technique, et un poste d'adjoint du patrimoine principal, première classe, à temps complet, au service médiathèque. Voilà les 5 postes dont on demande la création. Et donc, il nous est demandé de mettre à jour le tableau des effectifs chaque fois qu'il y a cette opération-là. Donc, je n'en dirai pas plus. Je propose, monsieur le maire, de procéder à votre
vote. Excusez-moi, un truc, je n'ai pas compris. Là. C'est pas 5 nouvelles personnes.
Non, c'est la progression.
Ça ne concerne que des avancements de grade. Voilà.
Mais c'est très bien. Ça veut dire que les gens montent en compétences.
Tout à fait.
Il y a des augmentations qui sont plutôt dites naturelles.
Naturelles, oui.
Et il y a des augmentations où on a des agents qui, quand même, ont une volonté d'avancer et donc passent les concours, etc. Et donc là, nous, on pousse justement cette partie-là.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 18. Eh bien, quand on crée, il faut supprimer.
Merci, monsieur le maire. Comme je le disais, effectivement, il y a la création et il y a la suppression. Les 5 postes que nous vous donnons de créer au travers de cette délibération 17, eh bien, il y a le pendant, hein, la copie conforme sur la suppression et les mises à jour du tableau des effectifs pour 5 postes aussi qui sont supprimés parce que les collaborateurs ont évolué dans la hiérarchie, dans leur carrière. Voilà. Alors là, vous avez aussi il y a un poste d'adjoint technique. Deux adjoints techniques principales, deuxième classe, un adjoint technique principal, première classe, et un adjoint du patrimoine principal, deuxième classe. Voilà les 5 suppressions de postes qui viennent, je dirais, compenser les 5 créations que nous avions vues sur la délibération précédente.
Et donc, ensuite, en complément d'information sur la suppression, il y a également aussi, donc là c'est pour équilibrer les progressions, et je vous rappelle qu'il y a eu 2 radiations qui ont eu lieu dans la collectivité. C'est quand même assez rare dans une collectivité. On a mis en place cette action politique volontariste, en tout cas aussi de regarder entre les agents qui apportent une réelle plus-value au collectif et les agents qui tirent sur le système, on va dire, et moi je peux pas embarquer toute une équipe municipale en tant qu'avec agents si au moment donné on donne pas aussi des exemples. Donc il y a 2 radiations également qui ont eu lieu. Ça fait pas l'objet de le vote de cette délibération, mais je voulais vous la donner en information. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie et je salue au passage l'ensemble du personnel qu'on recevra la semaine prochaine. Et l'ensemble des élus, vous êtes également invités pour recevoir le personnel à l'occasion des fêtes de fin d'année et pour les mettre à l'honneur sur leur engagement qu'ils font, puisque si la commune avance, c'est parce qu'il y a des élus qui sont mobilisés et il y a des agents qui mettent en œuvre aussi ce que nous votons ici en Assemblée. Bien, nous avons passé l'ensemble de l'ordre du jour. Donc je corrige, j'avais dit 24 délibérations, mais c'était la page 24. Donc il n'y a que 18 délibérations. C'est M. Bentoumi qui m'a repris. Je dis oui, effectivement, j'ai lu la page. Donc la journée a été longue. Elle a commencé tôt ce matin en conseil d'agglo, puis ce conseil d'administration du Conservatoire méditerranéen, puis ce conseil municipal. C'était la journée des conseils. Bien, donc, s'il n'y a pas plus de remarques par rapport à ce qu'on a vu, je me dois de vous lire la liste des décisions prises en vertu de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales pour la période du 20 septembre 2025 au 12 décembre 2025. Donc, il y a eu la décision portant exercice du droit de préemption après avis de la commission URBA, après avis de la commission Finances, pour l'acquisition d'une remise 6 rue Courtauval, qui est rue de la Treille aujourd'hui. C'est la référence cadastrale qui a été mise en avant. L'admission en non-valeur, les actes d'engagement nettoyage des bâtiments publics lot numéro 1, lot numéro 2, et les actes d'engagement création d'un bassin de rétention et aménagement paysager, vous le voyez en ce moment. Décision délivrance de cases de colombarium numéro 54, contrat de mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, acte d'engagement des marchés alimentaires 2025-2026 du groupe Commande Civade, lot numéro 1 DB03, lot numéro 2 DC04. Acte d'engagement marché des assurances flotte automobile. Décision désestée en justice, Madame Faccioli. Délivrance d'une concession dans le 3e cimetière numéro 240, famille Dessault. Et enfin, acceptation d'un don de 1000 euros pour la stérilisation des chats. S'il n'y a pas d'autres remarques de la part des élus du conseil municipal, eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que le conseil est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi que le public présent et nos citoyens qui nous écoutent auront, l'élément sera passé sur le site internet. Et donc, je vous souhaite de passer un très bon moment.